émission spéciale sur les ondes de Radio Primitive. Le musée nomade. Une émission spéciale réalisée en partenariat avec la ville de Reims. Mardi 6 février dernier, Radio Primitive était attendue à la maison de quartier Épinette. Le musée des Beaux-Arts de Reims y avait posé ses valises, enfin, sa malle plus exactement, mais vous comprendrez plus tard. Et dans la maison de quartier, en ce mardi, il y avait foule. En effet, des classes d'école rémoise venez découvrir le musée nomade. Mais nous vous en disons déjà trop. Et les enfants ont commencé la visite.
Et si on regarde chaque œuvre, et bien dans ces danses, on retrouve des formes géométriques. Quelles formes géométriques vous pouvez voir dans les œuvres? Si on tirait des traits.
Un demi-cercle.
Effectivement, sur la danseuse, on a un demi-cercle. On peut l'avoir aussi sur la danseuse avec cette vague.
Oui. Un carré.
Un carré, alors ça c'est une œuvre qui est carrée, mais dans le corps de la femme, elle fait quoi avec sa jambe?
Un peu triangulaire.
Ouais, elle fait un angle droit, et comme ensuite ça fait un peu une diagonale avec son autre jambe, ça crée comme un triangle. Donc on retrouve des formes de demi-cercle, triangulaire, encore une fois aussi dans la coupe de cheveux qui est court, qui est au carré. Qui donne ses formes géométriques typiques de l'art déco. On l'a également dans le socle de la sculpture où vous voyez, comme on l'a vu précédemment avec le bâtiment sur l'exposition internationale des arts décoratifs, on retrouve ce socle en estrade comme des marches d'escalier que l'on a ici.
Bonjour, je m'appelle Laure Piel, je suis responsable du service des publics au Musée des Beaux-Arts de Reims.
Bonjour, je suis Paul Cartier, médiateur culturel au Musée des Beaux-Arts et j'ai en charge le Musée Nomade, qui est un projet des musées de Reims en hors les murs.
Aujourd'hui, on se trouve dans la maison de quartier Épinette. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi le Musée des Beaux-Arts part en promenade dans la maison de quartier des Épinettes ?
Alors, il y a plusieurs raisons. La première est que nous sommes fermés depuis 2019 et que le musée est actuellement en travaux pour rénovation et agrandissement. Les travaux sont bien avancés, mais sans doute nous ne rouvrirons pas avant 2026. Maintenant, c'est à peu près sûr. On espère début 2026. Voilà, ça c'est la première raison. La deuxième, c'est parce que nous avons créer cette espèce de module qui s'appelle le musée nomade et qui nous a permis depuis 2 ans, depuis on a commencé toute fin 2021, de porter le musée à travers des reproductions, parfois de vraies œuvres comme aujourd'hui, tout un système de médiation dans divers quartiers de Reims. Donc on a appelé ça le musée nomade et on l'a d'abord implanté dans le quartier Orgeval, donc il y avait 3 piliers, Clermarais et 3 fontaines, avec des lieux aussi des lieux tiers comme le QG à Orgeval où on a pu comme ça, on a pu ainsi présenter des œuvres, des reproductions, faire des ateliers. Donc c'est vraiment amener les œuvres auprès des habitants pour qu'ils puissent s'approprier ces œuvres. Donc la vocation de ce musée nomade, c'est de pérégriner dans tout Reims. Donc on est sur le deuxième quartier, qui est, enfin le deuxième secteur, qui est autour de la maison de quartier Jaurès, Épinette, donc comme aujourd'hui. Donc le troisième point, c'est la maison de quartier Europe. Donc la troisième raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, c'est la résidence de territoire, art déco et reconstruction, à laquelle nous participons depuis 3 ans, donc c'est la troisième année. Et là, c'est la maison de quartier Les Épinettes qui nous a proposé d'installer nos œuvres sorties des réserves spécialement pour cette résidence autour du thème de l'art déco. Et donc on a sorti quelques chefs-d'œuvre, il y a 9 œuvres des réserves spécialement pour que les élèves des 2 établissements scolaires, plus les habitants de ces quartiers, et qui ont travaillé sur le musée nomade également, puissent se retrouver ici et voir ces œuvres en vrai, en direct, parce que sinon ça fait donc environ 7 ans sans voir du tout les œuvres du musée, et donc nous trouvions ça bien de pouvoir apporter vraiment les œuvres près des gens.
Ça veut dire que lors des déplacements du musée nomade, c'est des œuvres différentes avec des thématiques différentes à chaque fois ?
Oui, alors dans l'ensemble, on essaye de varier un petit peu. L'année dernière, on leur avait proposé un corpus de 60 à 80 chefs-d'œuvre du musée sur des thématiques assez variées comme le paysage, la nature, les portraits. Donc avec des reproductions, des projections. Et puis, on a apporté trois vraies œuvres à un moment donné, en plus de celles Art déco. Et donc cette année, par exemple, le médiateur qui est en charge du musée Nomade a choisi avec les gens sur le musée numérique une série d'œuvres qui tournait autour notamment des animaux, du monde animalier, un peu de la nature et également d'autres types d'œufs qui venaient spontanément de la part des personnes pour qu'à peu près chaque maison de quartier, chaque groupe ait 10 à 15 œuvres préférées, on va dire.
Pendant que nous discutons avec Laure Piel, responsable du service des publics pour le Musée des Beaux-Arts de Reims, Paul Cartier fait découvrir des œuvres aux petits élèves rémois.
On va pouvoir commencer pour justement se remémorer ce qu'est l'art déco. Donc, l'art déco, c'est un style artistique qui va être actif, on va dire, grosso modo, entre deux grands événements historiques qui sont les guerres mondiales. Et donc, entre ces deux périodes, c'est l'entre-deux-guerres. Et le style art déco va se développer durant cet entre-deux-guerres. Mais il n'apparaît pas comme ça par hasard, il va être influencé par ce qui se passe avant. Et donc, nous, on va d'abord vous présenter un peu le style qui était avant la Première Guerre mondiale, qui s'appelait l'art nouveau. Et donc, pour parler de l'art nouveau, je vous présente cet élément d'architecture. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est ? D'un métro, puisqu'on est en souterrain, donc effectivement, c'est l'entrée, une entrée de métro à Paris. Et si l'on regarde sa forme, effectivement, elle s'inspire de la nature, comme on la voit derrière avec ses arbres dans ce petit jardin. On voit qu'on reprend les couleurs. Là, on est un peu loin, mais si on observait les formes de plus près, on peut voir que ça fait comme des troncs d'arbres, des branches qui poussent. Et encore, ce auvent en vert, on peut représenter un peu un coquillage ou encore une fleur qui s'épanouit, qui s'ouvre. L'art nouveau, c'est beaucoup d'arabesques, c'est des formes très arrondies, en volutes, et qui s'inspirent des formes de la nature, qui cherchent à les copier et à les reproduire.
Spéciale sur Radio Primitive, le musée Nomade, une initiative culturelle, sociale et citoyenne organisée par le Musée des Beaux-Arts de Reims. Et nous sommes toujours en compagnie de Laure Piel.
Est-ce qu'on peut faire un pas de côté et parler de ce musée numérique ?
Ah oui, alors le musée numérique, c'est une très belle chose qui se développe depuis pas mal d'années maintenant, grâce à des collègues qui travaillent à la conservation du musée notamment, et qui développent, comme un peu dans tous les musées, une sorte de centre de ressources ou de énième musée, mais en ligne, et qui permet au public de tout type d'accéder à l'ensemble des œuvres du musée des Beaux-Arts, mais aussi de tous les musées de Reims, avec des beaux visuels, des visuels parfois en très haute qualité avec mégapixels, je crois qu'on dit gigapixels, et puis des notices relativement simples, et d'autres liens, des documents, des ressources, etc. Donc ils peuvent naviguer, et c'est en train de se développer davantage. Il y a une belle page, j'invite tout le monde à aller regarder.
Oui, d'ailleurs, sur les œuvres présentées aujourd'hui, il y a un rappel constant sur les cartons pour inviter les spectateurs, les visiteurs plutôt, à se rendre sur le musée virtuel.
Oui, voilà, exactement. Comme ça, ça permet également, en attendant qu'on rouvre au public divers et variés, de pouvoir s'approprier comme ça toutes ces œuvres et puis d'avoir hâte de les voir en vrai également.
L'artiste plasticienne Victoria David était également présente lors de cette visite. Pourquoi ? Faisons comme les enfants. Pour l'instant, écoutons et nous verrons ensuite.
Attention, vous êtes prêts ?
Oui !
Alors, là, ce que vous voyez devant vous, c'est moi qui l'ai fait. Je l'ai sorti de mon atelier pour la porter ici, pour vous montrer. Alors ici, on a trois différents styles d'œuvres. Est-ce que vous pouvez me dire les trois ? Dans les trois cases, on pourrait ranger ces styles de sculpture. Oui.
Il y en a qui sont plutôt dans les couleurs chaudes et d'autres dans les couleurs froides.
Ok, on pourrait dire ça.
Ça ressemble un peu à des meubles, je ne sais pas si c'est droit et c'est symétrique, alors que ça, c'est un peu fait.
Exactement, alors ça c'est un très bon point. Il y a ces socles, on pourrait dire, ce que tu disais qui ressemblait à des meubles à peu près, qui sont très droits, exactement, par rapport aux autres pièces, aux autres sculptures qui sont plutôt, comme on pourrait dire, faites main, tu disais. Si on parle des socles, vous voyez, il y en a trois. Rectangulaire, voilà. À votre avis, comment c'est fait ? En quel matériau ?
En papier mâché.
Et le papier mâché, je l'ai compressé avec mes mains comme ça, autour des tasseaux de bois. Je l'ai comprimé, agglutiné autour des tasseaux de bois. Et ce qui donne cette...
Donc aujourd'hui, dans la maison de quartier Épinette, il y a donc des œuvres présentées, aussi bien des reproductions que des originaux, autour de l'art déco, mais il y a de la création contemporaine.
Oui, alors ça, c'est un point vraiment très important qu'on a bien développé, je crois, depuis l'année dernière, où pendant notre présentation de ces œuvres, on fait bien sûr des petits commentaires pour expliquer aux élèves et puis les faire parler sur ce qu'ils voient. On a la chance d'avoir avec nous l'artiste qui va travailler avec eux sur des ateliers. Donc, elle s'appelle Victoria David et elle peut expliquer en même temps son travail puisqu'elle a aussi apporté, je crois, 5 de ses sculptures qui permettent aux enfants de voir comment elles travaillent et comment eux ils vont s'approprier notamment ces matériaux. Donc c'est bien parce que c'est des œuvres qu'on a choisies ensemble par rapport à son corpus à elle, que ça fasse un dialogue un petit peu aussi avec les œuvres du musée autour de la ligne, des formes, un jeu sur la pérennité ou pas des œuvres, le temps qui passe sur les œuvres. Et puis comme ça, les enfants comprendront d'autant mieux ce qu'ils feront avec elle maintenant qu'ils ont vu son travail, qu'ils lui ont parlé. Parce que parler avec une artiste vivante, pour eux, c'est très important.
Alors, si on parle que du socle.
Un peu blanc.
Un peu blanc.
De couleurs dessus. Ah. Jaune.
Alors,
rouge,
est-ce qu'il y a des couleurs dessus ?
Rouge et bleu ?
Oui. Oui. Alors, c'est quoi ? Pourquoi il y a des petites couleurs dessus ? C'est dû à quoi ?
C'est parce qu'en utilisant plusieurs types de papier, ça donne ces aspects de couleurs.
Exactement. Oui.
C'est un peu du recyclage.
C'est complètement du recyclage. Oui.
Pour éviter de.
Alors, super pour les socles. Donc, qu'est-ce qu'il y a sur les socles ?
Des sculptures en papier mâché qui représentent toutes les dates des choses différentes.
Ok, alors, des sculptures, ça c'est vrai. Pour le reste, c'est pas tout à fait vrai, oui.
C'est la base, par exemple, avant de faire ce que tu voulais vraiment faire.
Ah, c'est comme le squelette ?
Oui.
Non, c'est pas vraiment ça. Alors, à votre avis, en quel matériau c'est fait? C'est pas du papier mâché, les trois sculptures qui sont là, oui?
L'argile?
Non.
Du papier maïs?
Non.
De la pâte qui durcit?
Presque.
De la pâte fimo?
Non.
Écrée?
Non, c'est quelque chose qu'on utilise en maternelle.
De la pâte à sel?
Pâte à sel, bravo. Avec des colorants, de la peinture dedans.
Est-ce que ces ateliers avec cet artiste, ça s'inscrit dans les EAC, donc l'éducation artistique et culturelle de la ville de Reims?
Alors, oui, en partie. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait maintenant avec les musées, les artistes et coachés par la direction de la culture notamment, éducation artistique et culturelle, bien sûr, apporte une pierre à cet édifice. Mais là, c'est vraiment dans le cadre de la résidence artistique. Mais ça fait partie des EAC, comme on dit. Par contre, c'est distinct des itinéraires éducation artistique et culturelle pour lesquels nous aussi on participe et presque toutes les structures de la ville y participent, qui se font en trois séances. Donc, c'est pas exactement la même chose. Petite nuance, mais c'est le même intérêt pour la culture et pour éveiller tous les jeunes à la culture.
Alors, ce n'est pas un itinéraire, mais fatalement, maintenant, j'ai envie de savoir, puisque le musée des Beaux-Arts est techniquement fermé, en tout cas son lieu de vie habituel, que proposez-vous dans le cadre des itinéraires ?
Alors, cette année, on en proposait même plus que l'année dernière. Pardon. On en propose au moins 5, enfin, on participe à 6, ce qui n'est pas rien vu qu'on est fermé, comme vous dites. Mais on avait la chance d'avoir déjà des expositions jeunes publics. Il y avait sur le thème de Fujita, l'artiste bien connu maintenant à Reims, je pense, la mythologie et le vitrail. Donc, ça avait été réalisé avec la direction de la culture. On les présentait en principe au cellier et avec un artiste qui nous les fabriquait avec des beaux panneaux, des reproductions, des textes, mais aussi des jeux. Les élèves et les profs y trouvent leur compte, on les installe dans les écoles. Et ensuite, bien sûr, il y a les autres séances, par exemple à la chapelle Fujita, au musée Le Vergeur. Et on a continué à développer ça avec, par exemple, la nature dans tous ses états, où on les emmène à la Villa Demoiselle, sur le thème de la nature Art Nouveau. On leur apporte 3 œuvres de paysage ensuite dans l'établissement scolaire. Et la dernière séance, ils visitent les jardins. Donc la nature domestiquée par l'homme, mais la vraie nature cette fois. Voilà, ce genre de choses qui permet aussi d'avoir un contact avec différentes formes d'art et quand même sans pas perdre le contact direct parfois dans une des séances avec les œuvres.
C'est presque plus, alors c'est peut-être que le presque n'est pas du tout adéquat, plus de travail que si la maison mère était ouverte.
Oui, il faut chercher des procédés, des sortes de pirouettes pour quand même pas perdre effectivement le contact avec une œuvre directement, pas non plus sortir trop les œuvres des réserves parce que ça peut être quand même fragile, un peu dangereux pour les œuvres. Et puis, voilà, trouver des thèmes, les thèmes, c'est pas ça qui manque, mais évidemment, ça demande un peu. Pour tout dire, une logistique derrière très importante pour amener tout cela. On est pas mal de services du musée à être mobilisés à chaque fois. Voilà. Mais en même temps, c'est très plaisant d'être auprès des publics et non les publics qui viennent chez nous. Les deux sont magnifiques. Et voilà, on espère dans l'avenir pouvoir garder les deux d'ailleurs, avec plus de personnel.
Alors, ces trois formes, elles représentent des objets qu'on voit souvent dans les musées et qui sont des objets pour faire la guerre. Est-ce que vous voyez ce que c'est? Il s'en est trois différents, oui.
Des casques?
C'est des casques, exactement. Vous voyez ces trois casques qu'on pourrait mettre sur la tête.
Avec un truc rouge.
Ouais. Oui, exactement. Celui-là, il est plutôt romain avec la crête. Dans Astérix, on le voit souvent.
Oui,
celui-là. Ouais, celui-là, il est comme un... quelque chose de médiéval.
On dirait pas des personnages, pas dans les échecs.
Celui-là, il ressemble à une couronne.
Oui.
Ok. Il nous manque une sculpture. Alors, oui, vas-y.
Un oiseau.
Non. Un oiseau, exactement. C'est un oiseau, mais un peu particulier.
Avec un...
Il a des griffes, comme les oiseaux, vous voyez. Non. Il a un bec et il a un chapeau. Il a un chapeau sur la tête.
On dirait un truc imaginaire comme dans par exemple, la liste des marais, on dirait un peu un truc.
Alors, c'est plutôt quelque chose d'historique. Alors, c'est une sculpture d'un dieu égyptien qui représentait un oiseau avec un chapeau ou une couronne.
T'as fait plusieurs œuvres comme ça?
Oui, j'en ai fait beaucoup. Et vous en avez une dernière dans le couloir. que vous pourrez regarder en partant. Bah, merci beaucoup de m'avoir écouté. La prochaine fois qu'on se verra, c'est dans votre classe. Dans, je sais pas, dans un mois, je pense. Ouais, début mars. Ok ? J'ai hâte de vous revoir dans votre classe.
Vous êtes à l'écoute de Radio Primitive dans une émission spéciale consacrée au musée nomade. À nos côtés, Laure Piel, responsable du service des publics pour le musée des Beaux-Arts de Reims.
Revenons sur les musées nomades. Donc, on est à la maison de quartier Pinette. Il y a déjà des classes qui sont venues. Il y a aussi des groupes en lien avec la maison de quartier, des habitants. Il y a déjà eu cette première phase dans d'autres quartiers. Quel est le retour des visiteurs, qu'ils soient minots, qu'ils soient scolaires, qu'ils soient non scolaires, périscolaires, et des enseignants, des habitants ?
Dans l'ensemble, les gens ont beaucoup, beaucoup aimé cette démarche, comme je disais justement, parce qu'on va vers eux et non le contraire. Ils ont pris beaucoup de plaisir à travailler avec nous sur la notion de qu'est-ce qu'un musée. Donc, ils se sont appropriés les choses de pas mal de façons, avec des outils, encore une fois, qu'on a essayé de créer pour que ça soit ludique, que ça soit quand même matériel et non pas que des reproductions. Et donc, ils ont travaillé avec notre maquette en Lego, par exemple, qu'on a, mais les petits comme les grands. Donc ça s'est très, très bien passé. En plus, on proposait des projets assez ficelés, donc le monde scolaire a bien apprécié sur les 2 ans et demi, 3 ans pratiquement passés. Et puis les groupes des maisons de quartier, on ne dirait pas qu'on a un retour énorme, mais on a un bon retour de quelques noyaux durs maintenant qui continuent à venir à nos propositions. Par exemple, on a fait un concert
qui se déplace de quartier.
C'est ça, voilà.
Il y a une prouesse.
Voilà. Alors,
on sait que c'est difficile.
On peut pas garder tout le monde tout le temps parce qu'on n'est pas assez nombreux. Mais par exemple, on a fait un concert en décembre à la maison de quartier Jaurès et des personnes du premier secteur sont venues à ce concert. Donc voilà, cette fidélisation, déambulation à travers les quartiers, dans les fêtes aussi de quartier, on sent vraiment qu'il y a, il y a quelque chose qui se passe. Et puis, comme ça, ils restent en contact avec l'idée du musée, avec ses œuvres virtuelles ou non. Et on espère aussi qu'ils vont devenir, alors c'est peut-être un vœu pieux, mais on n'espère pas, des ambassadeurs du futur musée et que leur médiation auront tout ce qu'ils auront fait en atelier, parce qu'ils ont aussi adoré participer avec les artistes compagnons qu'on a tous les ans. Là, on en a eu 2 l'année dernière, 2 nouvelles vont commencer cette année. On espère qu'il y aura une visibilité d'une manière ou d'une autre dans le nouveau musée et qu'ils pourront s'y retrouver, franchir la porte comme chez eux, avec le travail aussi qu'ils auront fait autour.
Alors là, les œuvres sont présentes, il y a des médiateurs et médiatrices, mais c'est vrai qu'il manque par rapport à une visite dans un musée, la scénographie. Comment on donne cette impression d'être malgré tout au musée ?
Alors, c'est comme vous dites, une question aussi de mise en scène un petit peu. On essaye, par exemple, là comme aujourd'hui, d'apporter des éléments muséographiques, muséaux, des socles, par exemple. Quand on peut, des mises en lumière, mais c'est plus difficile dans certains lieux que d'autres. Là, par exemple, on avait la chance d'avoir une salle très vaste, un mur vert acidulé, soit, mais en même temps, qui faisait un bel écran au fond. Les capots, comme on appelle ça, qu'on met par-dessus les socles, donc ça théâtralise un petit peu. Et l'idée aussi, c'est qu'ils respectent le lieu, même s'ils sont dans une école ou dans une maison de quartier comme aujourd'hui, voilà, de leur donner un peu les clés de lecture aussi pour qu'ils comprennent bien que c'est ni dans l'école, ni dans une maison, c'est ni le musée, c'est quelque chose de mixte, où ils sont à la fois en action, en contemplation.
C'est quelque chose de compliqué. Enfin, il y a une vraie éducation dans le fait d'aller voir des œuvres dans un musée. Est-ce que la plupart des scolaires qui viennent, d'ailleurs, ont cette habitude, ou en plus ils sont jeunes, donc le musée des Beaux-Arts commence à être fermé depuis longtemps. Ouais. Est-ce que ça, c'est une grosse partie de la médiation ?
Oui, alors c'est effectivement très important et ça varie aussi suivant les niveaux, l'âge des élèves. Mais à la limite, peut-être plus ils sont petits, plus c'est facile de leur donner ces clés et cet apprentissage. C'est aussi lié à la démarche éducative également des enseignants. Bien sûr, il y en a qui sont plus versés vers l'art, l'histoire de l'art, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Donc on est là aussi, nous, pour ça, effectivement, pour les aider. Apprendre à regarder une œuvre d'une manière ou d'une autre, c'est vrai que ça peut se faire avec n'importe quel support, et puis leur donner aussi un peu l'amour de l'art, peut-être un peu de la beauté aussi, leur donner cette notion-là, avec des travaux qui sont parfois très plastiques ou très ludiques, voilà, essayer de laisser de libre cours aussi à leurs paroles, tout en les recadrant et en leur apprenant à regarder une œuvre, quelle qu'elle soit.
On parle du public scolaire, mais finalement, est-ce que les adultes, c'est la même chose ?
Oui, alors tout à l'heure, par exemple, il y a des seniors tout à l'heure qui sont venus, qui travaillent avec Paul Cartier, justement, à la maison de quartier Jaurès. La plus âgée a 100 ans, donc c'est super. Et alors, certaines connaissaient bien, par exemple, l'art, d'autres beaucoup moins, mais donc il y a une émulation qui se crée aussi dans ce genre de groupe. Un petit peu plus compliqué, parfois, ce sont les personnes qui sont en AI, c'est un peu insertion sociale, parce que c'est pas leur habitude, on va dire, du tout, de venir au musée, ni de regarder une œuvre d'art, et là, le rôle de la médiation, il est crucial aussi, bien sûr, et quelqu'un comme Paul, c'est super, parce qu'il sait leur parler, il sait leur présenter les choses, parce que ça peut être des remarques comme, oh non, mais moi, je m'en fiche des musées, d'abord j'ai jamais vu un musée, et en fait en creusant bien, si ils ont souvent vu même un musée de l'automobile ou un musée scientifique, ou ils ont vu une émission à la télé, ou ils font des pratiques qui ne soupçonneraient pas être pratiquement de l'art, et donc il leur apprend super bien en douceur à venir jusqu'à lui et venir jusqu'à l'idée de musée quoi.
Profiter de votre présence pour avoir quelques infos sur le futur musée. Il y a des choses qui peuvent se dire.
Ben écoutez, je crois qu'en ligne actuellement sur LinkedIn notamment et peut-être Facebook, il y a des photos qui paraissent assez régulièrement.
Parfait.
Voilà.
Il y en a deux ce matin.
Voilà, je crois que c'est vue de drone ou
oui.
Donc on a une vue très impressionnante.
On se rend compte que ça sera pas ouvert demain.
Le chantier qui est gigantesque, hein, où ils recassent beaucoup de choses pour pouvoir reconstruire plus vite et plus solide et plus moderne. Donc ça, voilà, c'est tout à fait accessible. Et donc les travaux en plus avancent bien et un peu dans tous les domaines, par exemple l'archéologie, les fouilles archéologiques. Il y a eu une première étape et c'est à plusieurs endroits, donc c'est rebouché. De l'autre côté, ils continuent d'autres travaux. Donc on est optimiste quand même pour 2026.
On pourra avoir beaucoup plus d'œuvres que dans l'ancienne configuration.
Oui, alors si je ne me trompe pas, on va tripler la surface. En plus, donc il y a un deuxième étage qui est entièrement créé. -1 avec un auditorium, une grande salle d'exposition. Voilà, il va y avoir une grande salle consacrée à Fujita. Donc oui, c'est vraiment une très belle opération pour avoir une plus grande visibilité des œuvres et des œuvres qui n'ont jamais été montrées au public. C'est pas non plus un scoop, je peux le dévoiler, avec notamment une belle part donnée aux arts décoratifs. C'est pour ça aussi d'ailleurs qu'on est là aujourd'hui avec notre art déco, parce que ça va être une originalité du musée. C'est des peintures, des sculptures, mais aussi il va y avoir ce qu'on appelle des period rooms autour de l'art nouveau, de Galet, et puis l'art déco très bien représenté aussi. Je pense que ça va être assez spectaculaire quand même.
On nous avait parlé aussi peut-être des verriers qui auraient un peu plus de place.
Les maîtres verriers, vous voulez dire ? Oui, alors en principe, il y aura une petite salle, mais quand même avec des très belles choses au deuxième étage, dans la partie 20e siècle. Et il y aura dans tout le 20e quelques vitraux montrés comme ça, ça et là. Et également une partie aussi sur l'art sacré de 1925, le renouveau de l'art sacré. Là aussi, c'est pratiquement une pièce entière. Donc voilà, ça va mettre en avant quand même ces arts qui sont mixtes entre art et artisanat et qui font un lien aussi avec la ville de Reims.
tout va être repensé ou il y a des scénographies de pièces existantes qui vont être gardées dans leur jus, si on peut dire?
Peut-être que c'est trop tôt pour se poser ce type de question.
Ah ben non, parce qu'en fait le musée il est prêt. Ça fait très longtemps qu'on travaille tous dessus et la conservation à fond aussi. Donc c'est déjà accroché pratiquement virtuellement, centimètre par centimètre. Mais tout est repensé effectivement. Il y a des salles qui garderont le même esprit qu'avant, mais dans l'ensemble, ça sera vraiment avec une vision neuve, notamment parce que l'architecte qui a gagné le concours, qui travaille dessus, R.S. Mathéus, a sa vision aussi. Il est scénographe également, donc quelque chose d'assez épuré, mais respectueux quand même de l'histoire des arts. Et donc, je pense que ça va être vraiment une belle opération avec beaucoup de nouveautés.
On est dans l'école prière de la Marne, en CM2.
On a vu l'art déco.
On est où là?
Au musée.
On est dans un musée.
Dans un centre.
On est dans à la maison de quartier Épinette.
Oui, la maison de quartier Épinette.
On a fait, on a vu des œuvres, des artistes. On a vu plusieurs peintures, portraits, tout ça, tout ça.
Oui.
C'était des œuvres récentes.
Non. Anciennes.
Alors, quelle époque?
Anciennes, plutôt vers les
1918.
Oui. 1900.
Bah, dans l'année 1900.
Ok. Et c'était quel style des œuvres que vous avez vues?
Des femmes sur des tableaux.
Souvent les mêmes formes, souvent des formes géométriques.
Ouais.
Et avec voilà, c'est souvent les mêmes.
Souvent la même posture.
Et vous en avez pensé quoi?
C'était beau, c'était bien.
Okay.
Oui, c'était beau, il y avait
intéressant.
Bien fait.
Très intéressant.
D'accord.
Et surtout, et aussi là, c'était vers l'automne, là.
Les tableaux
Oui, vers les tableaux.
C'était des trucs géométriques.
Ouais.
Paul Cartier, médiateur culturel au Musée des Beaux-Arts, a terminé son intervention auprès des enfants. Profitons-en pour lui poser quelques questions. Et vous êtes sur les ondes de Radio Primitive.
On nous a parlé d'une malle nomade. Alors, est-ce que c'est une malle qui voyage avec le musée? Comment ça s'articule et qu'est-ce que cette malle nomade?
Alors la malle nomade, c'est comme une grande malle pédagogique qui est en trois niveaux. Donc on a un premier niveau qui nous permet de ranger du matériel pédagogique pour faire des ateliers notamment. Un deuxième niveau où il y a des contenus de texte et aussi une sorte de niche vide dans laquelle on peut mettre des objets à toucher, des facsimilés, et des zones de texte qui sont interchangeables pour changer les titres, les contenus en fonction de la thématique abordée. Et enfin, sur le troisième étage, c'est un étage dédié à la reproduction d'œuvres ou à des détails d'œuvres en fonction de la thématique que l'on va traiter. Donc c'est une malle qui a des contenus qui sont modulables et qui nous permettent, en fonction du traitement, si c'est le paysage, le portrait, la nature morte ou autre, de changer les contenus.
Quand on me parle de malle, j'imagine une malle version 19e, à peu près ces formats-là. On est en radio, à quoi elle ressemble cette malle?
Alors cette malle, elle est plutôt grande. Donc j'ai dit, elle est en trois niveaux, donc c'est trois caissons. Qui emboîtés les uns sur les autres font à peu près moins 2 mètres.
Ah oui, c'est une très très grosse malle.
C'est une très grande malle. Et après, en fait, elle s'ouvre. Donc quand on la ferme, ça fait une grande malle fermée. Quand on l'ouvre, eh bien, il y a deux pans de part et d'autre qui s'ouvrent. Donc ça lui permet de gagner en largeur. Et elle peut faire quasiment 1,50 m de largeur. Donc c'est une grande malle qui fait un grand meuble finalement. Un grand meuble dans lequel on a plein de contenus. Et l'idée, c'est qu'on peut la démonter, garder un seul niveau ou les trois, et l'emmener un petit peu partout là où on souhaite aller, que ce soit dans les maisons de quartier ou les locaux que l'on nous prête gracieusement dans le cadre du musée nomade.
Est-ce que c'est possible de nous donner un exemple de contenu, de support pédagogique qui sont utilisés lors de ces médiations? au-delà des œuvres.
Oui, alors du coup, comme on est en hors les murs et qu'on n'a pas forcément des œuvres originales à présenter, dans cette malle, on va avoir d'une part des petites reproductions d'œuvres. On a aussi des outils qui peuvent être créés avec notamment le centre numérique Syntex pour expliquer le paysage, par exemple. On a créé un espèce de petit théâtre lumineux où en fait on a des grands panneaux de plexi qu'on va emboîter les uns derrière les autres pour expliquer la composition d'un paysage. Donc on a un plexi qui montre le premier plan, un plexi qui montre le deuxième, le troisième, etc. Et quand on les accumule, on comprend comment les artistes créent la perspective. Et tout ça, c'est intégré dans la malle. Ou alors on a des textes avec peut-être une petite question, la réponse qui est cachée, et on peut dévoiler la réponse une fois qu'on veut donner le contenu.
Lors de l'exposition, il y a quelques mois, au musée Hôtel Le Vergeur, sur Jacques Simon, il y avait par exemple un puzzle qui permettait de comprendre comment était fait un vitrail, et puis des choses tactiles. Mmh. C'est le type d'objet.
Oui, également, que l'on peut intégrer dans les outils qu'on a au musée Nomade. Ça peut être des objets tactiles, voilà, un vitrail qui peut être touché, un puzzle pour expliquer une œuvre, des objets d'artistes, les outils qu'ils utilisent, qui peuvent être aussi manipulés sans que les personnes ne puissent se blesser, bien évidemment. Et donc, c'est plein d'outils comme ceux-là. Et dans le musée Nomade, en parallèle, on a aussi un outil numérique. On a une vingtaine de tablettes que l'on donne aux visiteurs et aux visiteuses et sur lesquelles ils peuvent interagir avec les œuvres, zoomer dans l'œuvre, lire le petit commentaire. Et le médiateur ou la médiatrice qui anime cette présentation, elle peut aussi projeter sur un grand écran cette œuvre et interagir avec également.
Est-ce que c'est important pour le public, jeune ou moins jeune, de toucher ? Là, on a vu que pendant la visite, il y a des enfants, quand même, ça les démange, quoi, de mettre les doigts dessus. C'est une constante, ça ? Il faut leur donner un peu le champ, justement, en leur permettant de toucher une sorte de version bis des œuvres ?
Oui, il y a de ça, donc c'est pour ça que parfois on fait des œuvres tactiles, comme le vitrail que l'on a fait lors de l'exposition Jacques Simon, et aussi cette idée que l'on avait avec la malle, effectivement, d'avoir des outils ou des petits échantillons de toile ou de peinture, ou parfois quand on met plein de peinture, il y a beaucoup de relief, et on est frustré de ne pas pouvoir toucher, donc là on a une toile où on a vraiment ce relief que l'on retrouve et que l'on peut faire toucher, afin de comprendre la matérialité de l'œuvre. Et ainsi répondre un peu à ce besoin tactile que l'on peut avoir dans un musée et face à une œuvre.
On a parlé du cheminement du musée Nomade dans l'année à venir. La malle sera également présente à tous ces points de chute ?
Oui, l'idée c'est que la malle voyage comme l'outil numérique avec toutes ces tablettes et ce grand écran, voyage de zone en zone. C'est un peu notre dispositif que l'on peut déployer. Et l'idée, ça va être également de le compléter à terme, progressivement au fil des années, de changer les contenus, peut-être d'avoir d'autres choses encore à présenter dans ce musée Nomade.
Lorsque le musée des Beaux-Arts va rouvrir, tout beau, tout neuf, il restera quand même un musée Nomade ? Maintenant qu'on est sorti en hors les murs, il y a cette envie de continuer à faire des actions hors les murs ?
Oui, en tout cas, cette envie de continuer le hors les murs est vraiment présent. On l'a vu dans les contextes des années précédentes qui nous poussaient justement à réinventer le musée, notamment avec la crise sanitaire. Et de fait, on a vu que le hors les murs était aussi une belle manière de pouvoir sensibiliser le public à l'art, au musée. Et cette volonté, en tout cas, de continuer à faire du hors les murs, que ce soit pour le musée des Beaux-Arts ou les autres musées de Reims, est une volonté, en tout cas, de pouvoir continuer cette mission.
Bientôt être temps de laisser le musée nomade continuer ses pérégrinations dans notre cité. Avant cela, Laure Piel nous parle un peu du futur.
Pour terminer, on est en février 2024. On peut avoir un petit planning de, alors jusqu'à la fin de cette année scolaire, de cette saison.
Le musée nomade, on va poursuivre les opérations de médiation avec les trois maisons de quartier et peut-être des établissements scolaires, on espère. Et les ateliers vont commencer avec nos deux nouvelles artistes compagnons, qui sont donc Alix Cabaret et Annaëlle Rambeau. Mmh. Ah, donc ça, ça va démarrer en mars. Il y aura un travail individuel et collectif, et cette opération sera ensuite mixée lors d'une restitution collective. On espère qu'il y aura au moins une fresque ou plusieurs, et puis des cabanes. Enfin, j'en dis pas trop, parce que ça sera révélé à la Nuit des Musées le 18 mai, une partie, et ensuite mi-juin vers le 15 juin. On changera de secteur à la rentrée, mais on gardera un petit peu encore ce secteur-là jusqu'à la fin de l'automne, début hiver. Et on enchaînera, je pense, avec le secteur autour de Sainte-Anne-Wilson, par là, hein, par là-bas. Pour les scolaires, on continue nos itinéraires et autres jusqu'à la fin de l'année. On nous a demandé de faire un peu moins l'année prochaine parce qu'on va être beaucoup mobilisés sur la préparation du futur musée, notamment en termes de médiation. On travaille avec une société, un collectif de consultantes qui s'appelle Refink, c'est des Belges, qui nous aident à peaufiner ces idées de médiation. On travaille aussi avec des publics, des groupes de travail par typologie de public. Donc, c'est super parce que c'est participatif dans le bon sens du terme. Et puis on va démarrer une exposition au musée Le Vergeur autour du thème du tatouage japonais. Voilà, ça se démarrera le 1er juin. Ça durera jusqu'à fin octobre. Donc là, on est un peu mobilisé aussi pour proposer des actions grand public pour adultes et familles aussi.
Cette émission est à présent terminée. Radio Primitive remercie la ville de Reims, le musée des Beaux-Arts de Reims, Laure Piel, Paul Cartier et Victoria David. Si vous désirez de plus amples renseignements sur l'actualité du musée des Beaux-Arts de Reims, puisque celui-ci continue ses propositions hors les murs durant sa fermeture, rendez-vous sur le site internet des musées de Reims, musée-reims.fr. Vous y retrouverez également le musée virtuel. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Radio Primitive, en podcast, dans la rubrique Émission spéciale, Radio Primitive et la ville de Reims présente.
Lorsque cette petite arbre sortait une affaire, au milieu des midinettes, c'est moi qui appelle du père, sans bijoux et sans toilette, les hommes m'aimaient déjà. Dans les fêtes et conquêtes, l'amour ne manquait pas. Mais aujourd'hui, c'est bien fini et c'est ma faute aussi. Depuis que je me fais couper les cheveux, je ne crois plus qu'on m'aime. Je vois bien que les hommes avec moi ne sont plus les mêmes. Oh, si ça fait du, je n'aurais jamais fait ça. Je ne savais pas que les hommes les aimaient. Ah, voilà, depuis que je me fais couper les cheveux, je n'ai pas de peine. C'est plus de béguin maintenant, les hommes m'en regardent à peine. C'est bien malheureux, mais je ne trouve plus d'amour. Depuis que je suis fait couper les cheveux, les agents avaient sourire quand je passais près d'eux. Maintenant je ne les fais plus rire, ils ont tous l'air furieux. Les autobus, les taxis, pour moi ralentissaient. Ils disaient des mots gentils lorsque je traversais. Maintenant ils ne parlent même plus, j'ai peur qu'ils me passent dessus. Depuis que mes fesses coupées les cheveux, je ne crois plus qu'on m'aime. Je vois bien que les hommes avec moi ne sont plus les mêmes. Oh, si ça fait du, je n'aurais maintenant les hommes m'en regardent à peine. C'est bien malheureux, mais je ne trouve plus.